Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la Chine. Les intellectuels chinois décrivent comme un âge d'or pour la liberté d'expression la période 2008-2012 entre les Jeux Olympiques et la transition politique au sommet du parti. 2012 fut marquée par la chute de Bo Xilai, ce prince rouge condamné à la prison à vie pour corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir et l'évasion réussie du dissident aveugle Chen Guangchen. Ces dernières années, l'état policier chinois est à nouveau sur tous les fronts, renforçant la répression que l'on estime comme inégalée depuis celle de 1989 et des événements de Tiananmen. Xi Jinping, le président chinois, apparaît aujourd'hui comme le dirigeant le plus autoritaire, le plus puissant depuis Mao. Regard et analyse avec nos invités. Marie Holzmann, sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise, écrivain et journaliste. Bonjour.
Bonjour.
Dilnour Rehan, sociologue, enseignante à l'INALCO, l'Institut français de langues orientales, et directrice de la revue franco-ouïghour Regard sur les Ouïghours, bonjour.
Bonjour.
Et Michel Jean, sinologue et membre du groupe Asie 21, bonjour.
Bonjour.
En 2014, près d'un millier de personnes issues de la société civile, avocats, militants, féministes, responsables d'associations ont été arrêtées, du jamais vu depuis la répression de 1989. En juillet dernier, était adoptée une loi sur la sécurité qui a marqué un point de départ ou un renforcement d'une multiplication d'arrestations d'opposants chinois à l'étranger. Et pas seulement, on a l'exemple de Hong Kong avec la disparition à la fin 2015 d'un certain nombre d'éditeurs. La Chine se durcit, s'est durcie avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en décembre 2012. Ce durcissement s'est évidemment intensifié avec la loi sur la sécurité. Quelle analyse faites-vous? Est-ce que c'est une surprise? Et qui est visé par le durcissement de la répression? Marie Holzmann.
C'est une surprise, oui, en fait. Parce que personne n'imaginait que un dirigeant chinois aurait la tentation de reprendre un peu la voix du président Mao. On disait que Bo Xilai en avait l'intention, ça paraissait déjà un peu farfelu, mais on pensait que Xi Jinping n'était pas du tout dans ce registre et qu'au contraire, il allait être un réformiste. Et le début de son régime, disons, à partir de 2012, qui a débuté avec une vaste campagne contre la corruption, a même suscité des espoirs. Beaucoup de gens disaient, on ne peut démocratiser la Chine ou réformer la Chine qu'à partir du moment où on aura réglé, ou au moins en partie, le problème de la corruption. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que cette lutte contre la corruption était vraiment une lutte pour le pouvoir, pour maintenir son pouvoir et évincer tous ses potentiels adversaires. Et petit à petit, il s'est arrogé la direction de toutes sortes de commissions. Commission de contrôle des finances, commission de contrôle de l'Internet, enfin, il en a inventé tous les 6 mois. Maintenant, on voit réapparaître le culte de la personnalité qui avait vraiment complètement disparu depuis la mort de Mao Zedong. Et on a l'impression, effectivement, qu'il y a une dérive. Bon, on ne dit pas qu'on va revenir à l'époque de la Révolution culturelle, mais enfin, une dérive totalitaire assez caractéristique.
Michel Jean.
Je n'ai pas été surpris personnellement par ce retournement, en fait, cette affirmation d'un pouvoir central fort, autoritaire au moins, totalitaire si c'est nécessaire, et les réformes de politique en particulier qui étaient espérées avant 2012, c'est-à-dire avant la réunion du 18e congrès, me semblait inespéré, mais en tout cas peu probable. Je crois qu'on n'a pas voulu admettre que ce régime, fondamentalement, restait communiste, de ce fait, était toujours tenté, menacé, employons le terme que l'on veut, par une reprise forte du pouvoir. Il y avait en particulier, dès ces années-là, la crainte exprimée d'un accident, appelons ça comme on veut, de ce qui s'est passé en URSS en 1989 et 1990 et qui a conduit à la chute de l'Union soviétique. Et c'était sous-jacent dans la plupart des discours. Je rappelle que juste avant ce congrès, Bo Xilai, bien sûr, a été condamné. Et d'ailleurs, peu de dirigeants, de hauts dirigeants, osaient se rendre à Chongqing, qui était le fief de Bo Xilai, un peu comme l'expression de leur rejet des thèses et de l'orientation de Bo Xilai. Et en fait, quasiment l'un des seuls hauts dirigeants qui soit allé rendre visite à Bo Xilai a été Xi Jinping, qui à l'époque n'était pas numéro un, bien sûr, mais qui était pressenti très nettement. Il y avait là une différence manifeste. Ce n'était pas, bien sûr, un signe suffisant pour imaginer qu'il allait prendre autant de mesures autoritaires, mais c'était quand même un signe à noter. En ce qui concerne la corruption fait partie de la culture chinoise, même si dans d'autres pays, la corruption est présente. Mais ça a toujours été un prétexte pour éliminer des opposants. Donc là non plus, il ne fallait pas se faire d'illusions. Alors, lorsqu'on parle d'un retour à la révolution culturelle, bien sûr, ça ne va pas se reproduire avec des gardes rouges agitant un petit livre, mais ça prend déjà des formes qui vont dans ce sens.
Dilnur Rehan, le durcissement de la répression, une surprise, c'était la question que je posais, et Marie Lozman et Michel Jean ont répondu.
Non, moi je rejoins ce côté, plutôt Michel Jean. Effectivement, ça n'était absolument pas une surprise, notamment en ce qui concernait en fait les régions périphériques. C'est une continuité d'un régime qui a suivi son logique.
Alors, pour ce qui est des régions périphériques, je rebondis sur ce que vient de dire Dilnur Rehan et je me tourne vers vous, Marie Lozman, pour parler, on va commencer par Hong Kong. Hong Kong qui a connu ce qu'on a appelé le mouvement des parapluies en 2014, qui s'est traduit finalement par un semi-échec d'une certaine manière, Pékin n'ayant pas lâché. Et aujourd'hui, on assiste à un scénario d'intimidation de la part de Pékin qui veut faire de Hong Kong une ville chinoise comme les autres. Est-ce qu'on peut parler de violation de l'accord sur la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine ?
Ah, certainement, certainement. L'accord, c'était un pays de système et un pays de système qui devait doucement évoluer vers un système démocratique un peu plus consolidé avec l'élection directe du chef de la région autonome de Hong Kong, la région indépendante, enfin, plus ou moins indépendante de Hong Kong. Et ça ne va pas se produire. La révolution des parapluies était partie de là. Ils avaient réclamé le respect de cet engagement. Et maintenant, ce qu'on observe est encore plus inquiétant, c'est-à-dire que il y a eu ces kidnappings de libraires à Hong Kong. Ça, c'est quand même du jamais vu. On a kidnappé 5 personnes, mais après, la mise en scène de tout ça est tout à fait spectaculaire et digne des films les plus étonnants, puisque l'un d'entre eux a été kidnappé à son domicile à Bangkok. Il avait 2 résidences, une à Hong Kong et une à Bangkok. Il y en a 2 d'entre eux, donc dont celui-là, Gui Minhai, qui sont de nationalité soit britannique, soit suédoise. En même temps, c'est même pas des ressortissants chinois. Les 3 autres ont été kidnappés directement de Hong Kong, envoyés en Chine. Mais c'est à partir de là que ça devient de plus en plus invraisemblable. On les a forcés à des confessions télévisées. Ils ont pratiquement inventé des crimes que, à mon avis, ils n'ont jamais commis. Et puis, encore plus fort, l'un d'entre eux a été renvoyé à Hong Kong. Et de Hong Kong, donc, il a fait ses affaires, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il a demandé que la plainte contre son kidnapping soit retiré, autrement dit, mais non, j'ai pas été kidnappé, je suis allé de mon plein gré en Chine, et une fois cela fait, il est reparti en Chine. Et ce que ça démontre, et ce qui me paraît, moi, comme extrêmement inquiétant, c'est que la Chine est là en train de faire la démonstration de son pouvoir en dehors de son territoire. Non seulement elle peut aller chercher des gens à Bangkok, à Hong Kong, et qui sait, un jour à Paris, ou au Canada, ou ailleurs, mais en plus, elle peut, en quelque sorte, exercer des pressions psychologiques tellement fortes qu'ensuite, ces gens, publiquement, vont agir en fonction de ce qui est demandé. Le libraire Li Bo, donc un des 5, est retourné en Chine, pardon, à Hong Kong, puis reparti en Chine, et lui, il a vendu sa librairie en disant, oh ben finalement, elle était déficitaire, et il a détruit tous les ouvrages qui étaient hostiles au pouvoir chinois. Donc c'est vraiment cousu de fil blanc, c'est tellement cousu de fil blanc que ça paraît invraisemblable, mais c'est ce qui s'est passé. Je fais juste une petite digression en disant que la librairie Phoenix, qui est à Paris depuis pratiquement un demi-siècle, le phare de l'information sur la Chine, qui vend des livres chinois, a été acheté par une société chinoise l'année dernière. Donc vous voyez, le contrôle de la Chine un peu partout devient très impressionnant, y compris à Paris.
Dilnur Rehan, un commentaire, ce que vient de dire Marie Lozman.
Effectivement, en fait, si on regarde, Xi Jinping, il a accès au pouvoir à partir de mars 2013, et qu'on peut voir étonnamment aussi une tournure dans la contestation ouïghour dans la région aussi. Et donc, forcément, il y a un lien, il y a un durcissement de la politique encore plus dans les régions ouïghours et tibétaines. On peut voir aussi l'arrestation et la condamnation à vie d'Ilham Torti. Plus récemment, là, depuis quelques jours, il y a aussi l'arrestation et le jugement à Yuklod de Patgul Ghulam, une mère ordinaire qui cherchait son fils de 17 ans, qui est disparu aussi, comme 10 milliers d'autres jeunes Ouïghours, après le juillet 2009. Donc, on voit effectivement la main du régime partout. Dans la région, en fait, la politique de Xi Jinping, il se caractérise sur trois points. À part le point commun pour toute la Chine qui est la lutte anticorruption, et il y a là, dans la région Ouïghour, c'est surtout d'abord l'unité du peuple, renforcement de l'unité du peuple. Ensuite, on cite aussi lutte contre l'extrémisme religieux et le renforcement de la langue chinoise. Donc, sur ces trois points, en fait, toute la politique était en train de mener depuis 2013. Et donc, on a vu, effectivement, au nom de la lutte contre l'extrémisme religieux, on a vu la danse imposée collectivement au départ à tous les imams. Maintenant, en fait, tous les paysans sont obligés, tous les matins, de danser collectivement. Si vous dansez pas, vous êtes punis. On a vu aussi les codes vestimentaires qui dictaient de quelle couleur, quelle taille et quelle barbe vous allez porter, etc. Aussi au niveau de la langue aussi, le renforcement de la langue chinoise. D'ailleurs, en fait, lors de visites récentes de Xi Jinping dans la région Ouïghour, il a surtout prononcé en faveur de le renforcement de la langue chinoise. Et donc, la sinisation accrue. Et donc, on voit le résultat, effectivement, non seulement chez les Ouïghours, mais aussi chez les Tibétains, que les personnes, les intellectuels qui montent sur scène pour des crèches ou alors des écoles de langue maternelle sont punis également. Tout cela, c'est en fait derrière, pour, notamment pour les régions périphériques, on voit en fait une ambition idéologique de nationalisme Han, nationalisme chinois. Effectivement, ce patriotisme, on voit ailleurs aussi, y compris comme malheureusement à la société, ici aussi, à Hong Kong et même à Paris. Donc en fait, il y a cette idéologie nationaliste et un patriotisme chinois pour regrouper autour d'un leader fort. Donc c'est ça, je pense, la politique résumée de Xi Jinping.
Alors, Marie-Josmane.
Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose sur ces danses obligatoires pour les imams? Il faut le voir pour le croire, parce qu'on parlait du retour de la période maoïste, mais si vous allez sur YouTube, alors je ne sais pas quel lien il faut dire, mais danse forcée des imams au Xinjiang, on peut voir ça, ils sont mis en rang d'oignon et ils exercent des danses mais qui sont absolument ridicules, avec des gestes un peu enfantins et un rythme avec une percussion modernisante horrible, et on imagine l'humiliation de ces imams qui sont respectés dans leur collectivité et qui sont obligés de se livrer à des contorsions qui sont tout à fait contraires à leur culture, à leurs habitudes et à leurs désirs, certainement.
Alors, à cette question qui est visée par le durcissement de la répression, Marie-Josmane évoquait les opposants à Hong Kong, les libraires qui sont aussi, certains d'entre eux, des éditeurs qui précisément publiaient des ouvrages sur la vie sentimentale du président chinois. Et puis, la question des minorités qu'évoquait à l'instant d'Ilnur Rehan, minorité tibétaine, minorité ouïghour. Michel Jean, est-ce que on sent effectivement un retour en arrière tout de même et...
Pour moi, ce n'est pas un retour en arrière, c'est la preuve qu'il y a dans l'attitude chinoise, pour les dirigeants bien évidemment, une volonté de garder fortement tout ce qui est la spécificité chinoise. Et dès lors que, en particulier sur les périphéries, Hong Kong fait partie des périphéries comme le Xinjiang ou le Tibet, dès lors que ces formes de culture étrangère sont persistantes, il faut les éliminer. À Hong Kong est une ville de tradition internationale, de par le passé colonial britannique, mais également par tous les échanges, par la richesse économique, etc. Et finalement, il y a un grignotage qui est fait par le pouvoir central à Pékin pour éliminer tous ces phénomènes, que ce soit par la justice, pour les élections, etc. Il y a d'où ces révoltes de 2014 ou d'avant. Donc il ne faut pas s'étonner et les choses vont se poursuivre. Et je crois que ça fait partie de malheureusement, de l'avenir de ces régions, à moins d'un événement que l'on ne peut pas prévoir aujourd'hui, mais qui correspond tout à fait à ce que les dirigeants chinois veulent.
Alors, cette loi que j'évoquais tout à l'heure de juillet 2015, une loi particulièrement sévère, Marie-Josmane, est-ce que les conséquences se font sentir et finalement dans la traduction au quotidien, qu'est-ce que l'on peut dire de son impact ?
Ah ben, les conséquences se font sentir partout. À partir de juillet 2015, on a vu cette vague massive d'arrestations, notamment des avocats défenseurs des droits civiques. C'est comme ça qu'on appelle les avocats qui se consacrent à la défense des gens victimes du pouvoir. Donc c'est une expression un peu bizarre, parce que théoriquement tous les avocats défendent des droits civiques, mais en fait sur le nombre total d'avocats, il y a à peu près, disons, 300 000 avocats en Chine, il n'y en a peut-être que 500 à 1000 qui défendent les droits civiques. Et donc ceux-là sont devenus les bêtes noires du pouvoir, parce que il met le pouvoir en face de ses contradictions. Le pouvoir affirme qu'il défend les droits de tous les citoyens, qu'ils ont droit à la religion, ils ont droit à la liberté d'association, etc. Mais lorsqu'ils pratiquent leur religion, comme chez les Ouïghours, ou en Chine intérieure, par exemple, les chrétiens sont visés avec la destruction des croix sur les églises, etc., ils sont défendus par ces avocats défenseurs des droits civiques, et maintenant, bah, cela gêne énormément le pouvoir. Donc, on les a intimidés de façon vraiment très violente, en arrêtant des gens remarquables, comme Pu Zhiqiang, qui est quelqu'un de respecté dans l'ensemble de la population chinoise, pas seulement chez les citoyens. Il était aussi respecté au sein du pouvoir, parce qu'il a réussi à faire évoluer un peu la loi chinoise en faveur des citoyens les plus démunis. Donc lui a été arrêté, condamné. Bon, maintenant il a été libéré pour des raisons médicales. Mais Madame Wang Yu, aussi une avocate bien connue pour sa défense des plus démunis, est toujours en prison et on ne sait même pas à combien elle va être condamnée bientôt. Ça, c'est extrêmement inquiétant parce que ça marginalise des gens dont la conviction était qu'il fallait élever le niveau de la pensée, disons, légaliste de la population, l'amener à croire dans les vertus du droit, l'amener à croire que s'ils étaient victimes d'une injustice, ils pouvaient porter plainte, se défendre et, au miracle, peut-être gagner. Or, maintenant, plus personne n'y croit. On voit que c'est le pouvoir qui décide. Si on est victime d'une injustice et qu'on est du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire pas du côté du pouvoir, eh bien, on va perdre. On va perdre à tout jamais. Donc c'est dramatique et on voit bien des personnalités extraordinaires comme Tang Biao, qui est un avocat mondialement connu, qui est maintenant condamné à l'exil, qui ne peut plus rentrer en Chine. C'est une situation que je considère comme désastreuse.
Alors, sentiment de trahison de la population chinoise par rapport à ce qui se passe au plus haut niveau du pouvoir à Pékin,
C'est une trahison en ce sens que Hu Jintao avait commencé sur ce chapitre. Xi Jinping a un petit peu embrayé en disant « nous allons diriger avec le droit ». Ils n'ont pas dit « nous allons devenir un État de droit », mais un État avec le droit. Et donc, les citoyens chinois ont entendu le droit, la justice, hop, ils ont embrayé dans cette brèche. Et c'est là que le pouvoir s'est rendu compte qu'ils avaient commis une erreur, qu'il fallait surtout pas parler de droit, il fallait parler de discipline et d'obéissance. Donc, on est en train de retourner vers ces notions de discipline et d'obéissance.
Michel Jean.
Oui, on a mentionné la Constitution et le respect de la Constitution. Mais les dirigeants ont bien expliqué que la Constitution était au service du parti. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, le parti, la Constitution et après l'application. Donc il faut bien comprendre le discours pour savoir quelles sont les réalités.
Dean Lorraine, commentaire ?
Effectivement, je crois que l'évolution d'un certain moment, notamment en fait certains appels de l'âge d'or de l'expression en Chine entre 2009 et 2012, peut-être en fait beaucoup de Chinois aussi, ils ont espéré que avec l'amélioration économique, leur situation en fait de droits civiques des citoyens chinois aussi s'améliore. Effectivement, ça a beaucoup amélioré, étant donné que moi-même j'ai fait mes études en Chine intérieure, donc je vois la différence entre chez nous et chez les Chinois. Seulement en fait, en ce qui concerne nous, les Ouïghours, on n'a jamais eu de l'espoir que ce président allait changer quelque chose, parce que pour nous, ça n'a jamais été le cas, et que effectivement, ça a prouvé, c'était, en fait, pour nous, la situation, c'est de plus en plus dur, de plus en plus dur. Donc, on n'a jamais espéré non plus, en fait, de la part de Xi Jinping, une amélioration de droits Ouïghours.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Marie Holzmann, Dean Lorraine et Michel Jean dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la Chine, nous retrouvons nos invités, Marie Holzmann, sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise, écrivain et journaliste, Dilnour Rehan, sociologue, enseignante à l'INALCO, l'Institut français des langues orientales, et directrice de la revue franco-ouïghour Regard sur les Ouïghours, et Michel Jean, sinologue et membre du groupe Asie 21. On sent une période particulièrement cruciale pour le président chinois à deux niveaux, j'ai presque envie de dire d'abord à un niveau économique, avec ce tournant de la politique économique dans l'objectif de passer d'un mode de croissance plus durable et non plus fondé sur l'investissement en infrastructures et l'exportation, mais de plus en plus sur les services et consommation intérieure. Et pour le président chinois, l'aspect politique aussi, avec dans quelques mois le 19e congrès du parti communiste chinois. Le président vise évidemment un deuxième mandat de 5 ans. Ce qu'on sent, c'est un président, Xi Jinping, qui se présente comme le sauveur de la nation chinoise, le justicier suffisamment puissant et résolu pour assainir le parti communiste au moment où la population s'insurge devant l'ampleur des inégalités et l'opulence des cadres du parti et de leurs proches, et se présente comme l'homme providentiel, d'une certaine manière, pour permettre à la Chine de traverser des moments difficiles. Est-ce que cette analyse rejoint votre point de vue, Michel Jean ?
Bien sûr, l'économie et le succès des réformes que tente Xi Jinping renforceront ou renforceraient la légitimité du parti. Mais je crois personnellement que les problèmes de politique intérieure sont encore plus présents dans les préoccupations du numéro 1 et de son équipe. En ce sens que les dérives qu'il y a pu y avoir, enfin ce qui était pressenti comme ça ou ressenti comme ça avant 2012, faisait craindre aux dirigeants comme Xi Jinping une dérive qui amenait, je l'ai déjà dit je crois, au sort qu'a connu l'Union soviétique. Et de ce fait, il fallait et il faut que la Chine retrouve, garde sa spécificité culturelle pour ne pas tomber au rang d'une nation, d'un État quelconque. L'ordre mondial est concerné également dans l'esprit de Xi Jinping, c'est-à-dire qu'il tient absolument à se départager, par exemple, des États-Unis qui sont à la fois l'adversaire et le modèle. Et c'est un phénomène très difficile parce que la modernisation risque très souvent, et a risqué déjà, de se traduire par une occidentalisation. Alors là, c'est le comble. Et Xi Jinping le craint, et la plupart des mesures vont dans ce sens. On revient à une tradition et on se la garde contre les étrangers en général. Ce n'est pas du tout de la xénophobie, c'est tout simplement la préservation d'une culture ancienne et à laquelle les Chinois tiennent et ne tiennent pas à partager.
Marie Holzmann ?
Je dirais presque que je suis moins optimiste encore, parce que je ne vois pas comment le gouvernement communiste pourrait préserver la tradition ancienne, vu qu'ils n'y connaissent rien. Aucun d'entre eux n'a étudié les textes classiques, aucun d'entre eux ne s'est intéressé à la philosophie taoïste, bouddhiste, confucéenne, etc. Et en général, lorsqu'ils ouvrent la bouche sur ces sujets-là, ils disent des bêtises. Et c'est ce qui crève le cœur des Chinois qui, eux, sont restés fiers de leur culture. Ceci dit, cette fierté de la culture chinoise, je la sens s'effriter. J'ai l'impression que de plus en plus, ceux qui croyaient encore en cette spécificité et en cette longévité de la culture chinoise deviennent de plus en plus pessimistes. Ça m'évoque une phrase de Solzhenitsyn qui disait « Il est très important qu'on sorte du système soviétique avant qu'il ait 100 ans, parce que chaque dizaine d'années qui passe nous rapproche de plus en plus de l'état du primate. »
Donc la population chinoise doute, c'est ce que j'entends, Marie Holzmann, de ce que vous êtes en train de dire.
Certainement. Certainement, elle doute des motivations de ce pouvoir. La célèbre journaliste Tsai Jing, qui avait fait ce remarquable documentaire sur la pollution environnementale en Chine, a adressé dans un tweet ou quelque chose comme ça, une phrase qui était terrible, qui a dit « Mais qui êtes-vous, vous, là-haut, les dirigeants chinois ? Vous avez abîmé la terre, vous avez abîmé l'eau, vous avez abîmé l'air, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire ?» C'était une déclaration terrifiante.
Alors, Dilnour Rehan, le doute de la population chinoise au Xinjiang, on en est loin d'une certaine manière ?
Ouais, je pense que depuis les années 90, le pouvoir s'est légitimé grâce au bon économique et à l'amélioration économique des citoyens chinois en général. Maintenant, en fait, on voit depuis notamment 2000, malheureusement pour Xi Jinping, depuis que son accès au pouvoir, on voit une dégradation économique. Et cette année, le PIB il est chuté fortement. Et les estimations sont assez pessimistes aussi des économistes pour la Chine. Donc, je pense que cela peut aussi jouer, expliquer d'une certaine manière la politique de Xi Jinping. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas tellement compter désormais sur sa légitimité économique. Donc, il faudra bien trouver autre chose. Et donc, d'une part, c'est le patriotisme. Et c'est lui qui représentera la Chine forte, un homme fort qui protège les Chinois devant les Occidentaux notamment. Ce sentiment est extrêmement important pour les Chinois qui ont vécu une humiliation occidentale qui n'est pas si loin. Et d'autre part, en fait, en ce qui concerne les autres, entre guillemets, cultures étrangères à la culture chinoise, qui n'est pas si étrangère en réalité, justement, en fait, Xi Jinping, par là, il renforce en fait le sentiment de nationalisme et patriotisme en essayant d'effacer totalement les cultures périphériques.
Michel Jean, la Chine qui s'impose sur la scène internationale, c'est en corrélation parfaite avec ce qui s'est dit du régime de Xi Jinping et notamment les tensions en mer de Chine avec la mainmise de Pékin sur un certain nombre d'îlots. Enfin voilà, on est dans une logique, pour parler un petit peu géopolitique régionale, dans une logique évidente.
Oui, cette situation où la question de la mer de Chine du Sud et des îlots et des revendications chinoises est assez exemplaire aussi, et c'est un peu un avant-goût de ceux qui mettraient en doute ce que l'on dit sur la stratégie chinoise. Le cas de la question de la mer de Chine du Sud met en relief les relations très étroites que Xi Jinping a avec les militaires, avec le développement de l'armée, avec les méthodes qui consiste à avoir une tactique qui répond à une stratégie, le grignotage progressif des îlots avec un jour on met des pêcheurs, le lendemain on met une plateforme, après un terrain d'aviation, après des missiles et tout ça, en disant que finalement non, pas du tout, il n'y a rien de militaire là-dedans. C'est un système tactique qui est excellent, si j'ose dire, et qui correspond à une stratégie. On fait une comparaison qui est tout à fait justifiée très souvent avec le jeu de Go. C'est-à-dire que progressivement, on met les pions en place, il n'y a pas de réaction. Enfin, en tout cas, ou alors il faudrait qu'on tombe dans un conflit. Et c'est d'ailleurs un risque. Hein, c'est un risque. Il peut y avoir des accidents. Mais ça correspond aux ambitions chinoises. Alors là, on parlait tout à l'heure des routes de la soie terrestre. Là, il s'agit de la route de la soie maritime. Et après, les Chinois vont passer, vont pas revendiquer des territoires jusque dans l'océan Indien, mais enfin, à mettre des points d'appui à droite et à gauche. Alors, cette question de mer de Chine, je dis bien, est exemplaire parce qu'on retrouve la même méthode vis-à-vis du Japon, quels que soient les torts des Japonais à telle ou telle époque. On peut imaginer même, dans le nord-est de la Chine, c'est-à-dire c'est vers la Sibérie, des petits pas comme ça, qui pour l'instant n'ont pas une grande signification, si ce n'est en envisageant l'avenir. Et cela correspond à une stratégie qui est vraiment tout à fait cohérente.
Alors Michel Jo qui parlait de la route de la soie terrestre, ça l'a fait évidemment du Xinjiang, d'île Nouréane, une région absolument cruciale pour Pékin.
Tout à fait. Depuis, effectivement, en fait, bien sûr, la région Ouïghour, elle a été, depuis son annexion, elle a été une région géostratégique extrêmement importante. Et notamment, en fait, depuis Xi Jinping, avec son nouveau projet de la nouvelle route de la soie, elle est devenue encore plus. Donc c'est pourquoi aussi, en fait, il y a des renforcements de sécurité, il y a aussi des luttes contre la religion et pratiques religieuses, et aussi la sinisation au niveau de langue, etc. Et Xi Jinping, il espère aussi, en fait, plus de sinisation dans cette région pour ne pas avoir de contestation qui pourrait nuire à son projet qu'il va avoir jusqu'à par cette porte vers l'Occident. Et cette ambition, en fait, d'une part, aussi fait peur aux centra-asiatiques, aux populations de l'Asie centrale. Récemment, on a vu cette semaine le Kyrgyzstan, il a limogé son premier ministre qui a cédé dans un contrat, en fait, il a cédé pour de corruption avec la Chine, dans un contrat pour la Chine. Donc, et on voit aussi des contestations, des manifestations anti-chinoises dans les populations centra-asiatiques.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie Haussmann, pour revenir aux questions purement de politique intérieure, la concentration du pouvoir par Xi Jinping, il y avait pourtant des garde-fous qui avaient été établis avec le principe d'une direction collective telle qu'élaborée par Deng Xiaoping. Xi Jinping y cumule les fonctions. Jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où veut-il aller? Que sait-on? Et finalement, de la façon dont cela est perçu, est-ce que, voilà, quels sont ses soutiens et ses anti-soutiens?
Ça, c'est une question, face à l'opacité, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait des velléités de changer un petit peu le système au sein du Parti communiste chinois, puisque le prédécesseur de Xi Jinping ne cessait de parler d'une démocratisation au sein du parti. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était, disons, peut-être que c'est ce qu'il voulait dire, je n'en sais rien, que un jour, le secrétaire général du parti puisse être élu par la base, ou au moins une partie de la base. Or, depuis cette mise en place, donc par Deng Xiaoping, d'une direction collégiale et des mandats à durée limitée, à chaque fois c'est 2 fois 5 ans, on n'a jamais vu le moindre signe démocratique. On n'a pas vu qu'il y ait une discussion, par exemple, est-ce qu'on fait plus d'économie intérieure au détriment de l'économie d'exportation. On aurait aimé entendre ce genre de discussion et qu'il soit incarné, que ce soit Li Keqiang qui veut ceci, Xi Jinping qui veut cela, et bon, il y a une discussion et que le meilleur gagne. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui où on va et comment ça va se passer, parce que je ne vois réellement aucun signe d'autres préoccupations, disons, que garder le pouvoir. Donc, pour garder le pouvoir, tous les moyens sont bons. S'il faut plus de répression, c'est plus de répression. Plus d'investissement, c'est plus d'investissement. Mais je crois qu'il faut garder en tête quand même quelques chiffres fondamentaux. C'est-à-dire que la projection de la richesse chinoise est impressionnante. Ça, c'est clair. Mais si on regarde les chiffres, il y a 596 milliardaires en Chine, selon les listes Forbes, etc. C'est pas énorme. Mais c'est quand même beaucoup. Donc si on voit agir ces 596 milliardaires, on les voit acheter des tableaux de Boliviani, des vignobles, des choses comme ça, des jets privés, ça impressionne beaucoup. Ça impressionne beaucoup. Mais il faut voir que 30% de la richesse chinoise est entre les mains d'1% de la population. Et donc il y a cet écart, ce déséquilibre phénoménal d'une Chine incroyablement pauvre encore aujourd'hui et d'une Chine incroyablement arrogante à l'autre bout de l'échelle. Et dans ce contexte-là, enfin théoriquement, selon les théories des économistes, des sociologues, il devrait y avoir une révolution. Ça devrait exploser. Et on attend ça. Mais on ne le voit pas venir. Jusqu'à présent, le pouvoir communiste s'est bien maintenu grâce à ce balancement entre quelques réformes économiques, quelques améliorations et beaucoup de répression, toujours plus de répression.
Et on est peut-être précisément à un tournant, ce que j'évoquais tout à l'heure, avec ce changement d'orientation politique qui va tout de même faire des mécontents parmi un certain nombre d'industriels en Chine, Michel Jean.
Au début des années 90, Deng Xiaoping avait proposé et avait quasiment imposé des successions en désignant Jiang Zemin pour commencer, Hu Jintao, qui pendant 20 ans donc ont assuré la succession du précédent. Et il le faisait, disait-il, avec l'idée que des factions au sein du parti, en particulier à la direction, s'équilibreraient, cohabiteraient d'une manière harmonieuse. Bon. Pour Xi Jinping, la déclaration est tout à fait différente. Il déclare que toute faction dans le parti est un danger politique. Donc la position est très claire, il tient à concentrer non seulement le pouvoir personnel, pour des régions peut-être tout à fait raisonnables, ou en tout cas efficaces, mais il n'admet pas plus des rivalités entre factions. Et ça, c'est un élément très important.
Mais au sein du parti, comment tout cela, enfin, bien sûr, il y a de l'opacité, mais qu'est-ce que l'on peut, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce qu'on...
C'est très difficile de vous désigner des opposants parce que vous l'avez compris, ils se manifestent pas. Bon. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à qui s'adresse actuellement Xi Jinping dans des déclarations qui se font au cours de déplacements. Bon, il y a les dirigeants du parti pour commencer. Or, il en a éliminé un certain nombre, donc il y avait des opposants, mais il doit en rester.
Bon. Dans la lutte contre la corruption, hein, contre c'est la corruption, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui.
Il y a les militaires. Les militaires, il en a limogé un bon paquet, mais bon, les militaires, c'est plus simple, il n'y a pas de procès, on les change de poste, et puis c'est tout, on en prend d'autres. Il y a également tout ce qui concerne les médias, l'éducation, l'information. Bon, là aussi, il y a des opposants, mais on ne peut pas les nommer, enfin, que certains, bon. Donc il y a aussi des résistances dans ce secteur, mais c'est vague, ça reste, comme le disait Mario Osman, ça reste opaque. Et puis, bon, il y a toute la justice, et puis il y a la population en général. Alors là, c'est encore plus difficile de situer, puisqu'il n'y a pas d'organisation d'une opposition. Mais il y a des signes, par exemple, il y a eu récemment, très récemment, la nomination, enfin l'organisation d'une force de police armée de 600 000 hommes, avec une augmentation qui dépend directement et uniquement de la commission militaire centrale et de Xi Jinping, qui est le président de cette commission. Bon. Donc il y a des craintes, il y a une opposition, et on ne peut pas tellement aller plus loin, si ce n'est citer quelques noms, parce qu'ils sont manifestement repérés et limogés.
Alors finalement, ce qu'on comprend, c'est que Xi Jinping a toutes les chances de parvenir à ses fins.
Absolument.
Qu'est-ce que l'on sait de ses soutiens ?
Oh ben, il y a les membres du bureau politique, du comité permanent, du comité central. Alors, il va y avoir l'année prochaine, normalement, un renouvellement dû à l'âge. Ce sera une occasion, justement, pour placer un peu plus de pions,
de
à moins
hommes.
Que d'ici là, il y ait des événements imprévisibles. Donc, il y a, pour Xi Jinping, non seulement une volonté, mais des possibilités de progresser efficacement, selon ses objectifs, dans ce système. Et c'est un homme remarquable, il faut le reconnaître.
Hein,
remarquable,
un grand
stratège, intelligent, un grand stratège. Donc c'est quelqu'un qui a une puissance. Alors on le compare déjà à Mao, oui, ce n'est pas du tout excessif. Je crois que c'est tout à fait raisonnable.
Dean Nouréan, Mario Holzman, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Oui, je pense qu'en fait, Xi Jinping, il a tout fait pour toutes ses chances dans le 19e... pour le prochain congrès, donc il a déjà éliminé pas mal de ses adversaires et que effectivement, comme Michel Jean l'a dit, il y a l'année prochaine il y aura des renouvellements des âges et qu'ils seront remplacés évidemment par les proches de Xi Jinping. Donc je pense que Xi Jinping il sera là encore pour le deuxième mandat
de cinq ans
et pour l'évolution. Et donc comme je rejoins Marie qui disait effectivement il n'y a pas d'évolution et il y aura pas d'évolution, je pense aussi, mais on verra ce que se passe dans la société civile chinoise.
Marie Holzman, en guise de conclusion.
Il y a quand même des craquements. Par exemple, quelqu'un qui est proche du pouvoir, Ren Zhejiang, qui était très connu pour son blog, a écrit que Xi Jinping allait trop loin et qu'on ne voulait pas que les médias soient uniquement au service du parti, mais qu'ils reflètent aussi l'opinion du peuple. Évidemment, le site de ce monsieur a été promptement fermé et il a été vivement attaqué par tous les internautes qui étaient plus ou moins inspirés par le parti. Mais malgré tout, on sent quand même des craquements à assez haut niveau.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Et avant de terminer, pour aller plus loin, cette information que vous me donniez tout à l'heure, Dean Nouréan, sur le congrès mondial ouïghour qui se tiendra l'été prochain à Paris. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à Mario Holzman, sinologue spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise, écrivain et journaliste. Dean Nouréan, sociologue, enseignante à l'INALCO, l'Institut français des langues orientales et directrice de la revue Franco-Ouïghour, Regard sur les Ouïghours. Et Michel Jean, sinologue et membre du groupe Asie 21. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.